France Culture, bienvenue à tous, il est midi et demi. On commence le journal, le vôtre, Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. 44 avocats publient ce matin une tribune pour dénoncer les condamnations à mort des djihadistes français en Irak. Selon eux, il en va de l'honneur de la France. Ce matin, deux nouveaux ressortissants ont été condamnés à la peine capitale.
Dans votre journal également, Donald Trump qui est arrivé ce matin à Londres pour une visite d'État de 3 jours.
Une visite qui s'annonce mouvementée sur fond de déclarations fracassantes de la part du président américain, que ce soit sur le Brexit ou la politique intérieure britannique.
C'est l'une des nombreuses conséquences des élections européennes en France. Laurent Wauquiez a démissionné hier soir de la présidence des Républicains.
Et pour en parler, invité de la rédaction dans une dizaine de minutes, Aurélien Pradier, député Les Républicains du Lot. Et puis les députés se saisissent aujourd'hui du tentaculaire texte de loi sur les mobilités. Enfin, 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Avec une deuxième invitée, la galeriste Natalia Obadia, elle enseigne également à Sciences Po et elle vient de signer au Cavalier Bleu un essai de géopolitique, oui mais une géopolitique de l'art contemporain, une remise en cause de l'hégémonie américaine, c'est la question qu'elle se posera aujourd'hui en analysant, en faisant une sorte d'état des lieux de ce vaste marché de l'art.
Merci et à tout à l'heure. Depuis une semaine, les scènes se répètent inlassablement. Un prisonnier en uniforme jaune, claquette aux pieds, entre dans une haute cage en bois. À ses côtés se tient un avocat commis d'office, lequel généralement n'a pu consulter le dossier de son client que le matin même de l'audience. Quelques dizaines de minutes plus tard, en présence d'un représentant de l'ambassade de France et après délibération des juges, la sentence tombe, la condamnation à mort par pendaison. Hier, deux nouveaux Français ont été condamnés à la peine capitale par la justice irakienne pour avoir appartenu à l'organisation terroriste État islamique. 7 autres s'étaient déjà vus infliger la même sentence les jours précédents et 2 de plus ont été jugés ce matin à l'issue de procès expéditifs et qui posent question. Le premier débat est évidemment extrêmement sensible tant il se heurte d'une part aux opinions publiques fortement hostiles à tout rapatriement de djihadistes mais révèle d'autre part toute l'ambiguïté de la position française quand les autorités souhaitent que les djihadistes français soient jugés sur le lieu de leur crime pour ne pas avoir organisé le retour de ces ressortissants marqués par le saut du terrorisme. Elles ne veulent pas pour autant que l'Irak les condamne à mort. Et puis l'autre question est de savoir dans quelles conditions se déroulent ces procès. Sont-ils équitables? Les droits de la défense y sont-ils respectés? L'organisation Human Rights Watch fait état de graves lacunes mais aussi de tortures. Alors ce matin, deux derniers djihadistes français, je le disais, étaient à nouveau jugés en Irak et tous deux ont été à nouveau condamnés à mort. Compte rendu d'audience avec notre correspondante Céline Martelet.
Sans surprise, les deux Français ont été condamnés il y a quelques minutes à la peine de mort. Ce matin, pendant 1h30, chaque accusé français a tenté d'expliquer son parcours au juge. Mourad Abdelhom, 40 ans, et Bilal Kabaoui ont tenu la même ligne devant cette chambre spéciale de la Cour pénale. Ils n'ont jamais prêté allégeance à l'État islamique. Ils ont quitté la France en pensant trouver une vie meilleure en Syrie et aider la population locale. Ils n'ont jamais combattu également. Le président de la chambre spéciale les a mis face à leurs contradictions à plusieurs reprises. Mais en tenue jaune, au centre d'une cage en bois, les deux Français ont tenu leur version. Arrêtés en Syrie, ils ont maintenu qu'ils n'ont jamais mis les pieds en Irak pour les défendre. Il y avait encore ce matin deux avocats commis d'office, des avocats qui ne sont quasiment pas intervenus durant toute l'audience. Ils ont juste pris la parole après le procureur tout à l'heure, 1 minute, montre en main. Il faut dire que ces avocats ne connaissent pas grand-chose des dossiers de leurs clients éphémères, si on peut dire. Ils ne les ont rencontrés que quelques minutes tout à l'heure avant leur procès. Les deux accusés français ont accueilli leur verdict figé toujours au centre de cette cage en bois.
Alors depuis 2016, en clair, depuis la reconquête du territoire pris par l'organisation terroriste, plus de 500 djihadistes ont déjà été jugés par les cours pénales de Bagdad. L'an dernier, un peu plus de la moitié d'entre eux, 271, ont été condamnés à des peines capitales. En revanche, 52 seulement ont été effectives et jusqu'ici, aucun des étrangers condamnés à mort n'a été exécuté. Mais évidemment, rien ne garantit qu'il en sera toujours de même dans les prochains mois, voire les prochaines semaines, d'où cette tribune publiée ce matin par plus de 40 avocats, lesquels estiment qu'en prenant le risque de faire condamner à mort certains de ses ressortissants, eh bien la France s'expose aujourd'hui à, je cite, un immense déshonneur. Antoine Maret, bonjour.
Bonjour.
Alors ces avocats estiment que l'exécution de ces condamnations à mort, mais pas seulement autoriser même leur prononcer, reviendrait à répondre finalement à la barbarie par une peine qu'ils prohibent catégoriquement.
Effectivement, comme vous le savez, la peine de mort a été supprimée en France en 1981 et depuis 2007, cette abolition fait partie de la Constitution. Elle est donc entrée dans l'ADN du droit français et elle fait désormais l'objet d'un consensus. Et non seulement depuis 1981, il n'y a plus ni d'exécution ni de condamnation à mort sur le territoire français, mais il n'y a eu aucune exécution de Français à l'étranger. Ceux qui ont été condamnés à mort ont échappé pour le moment à la peine capitale, parfois au prix de pressions diplomatiques plus ou moins amicales. Et donc, à travers cette tribune, les avocats appellent Emmanuel Macron à faire pression sur l'Irak, faire en sorte que la peine capitale ne soit pas appliquée pour les ressortissants français, voire qu'elle soit commuée en peine de prison, éventuellement purgée sur le sol français. On se souvient du cas de Serge Atlaoui, un Français condamné à mort en Indonésie pour trafic de drogue. Il attend depuis 12 ans dans les couloirs de la mort et la pression, en particulier celle de François Hollande, a fait que pour le moment, il a évité le peloton d'exécution. Mais cette fois, le problème n'a pas la même ampleur. On en est à 11 Français condamnés à mort en Irak. Tous ont été reconnus coupables d'appartenance à l'État islamique. Le gouvernement français n'a pas souhaité que ces personnes soient jugées en France et il prétend que les procès se sont tenus de façon équitable. Les droits de la défense ont été respectés. Ce que contestent les avocats signataires de la tribune, qui voient également un traitement des ressortissants français par Paris à géométrie variable, au détriment des djihadistes. Ce qui est sûr, c'est qu'en acceptant que ces ressortissants soient jugés en Irak, Paris s'attendait à ce qu'ils soient condamnés à mort, même si désormais le gouvernement affirme détenir, intervenir pour éviter la pendaison des 11 Français condamnés à mort.
Merci Antoine Marette. Israël a mené hier et pour la deuxième fois en 24 heures de nouvelles frappes en Syrie qui ont fait au moins 15 morts parmi les forces loyales au régime de Damas. L'État hébreu assure avoir répliqué à des tirs de roquettes venant du pays voisin. De son côté, le président américain Donald Trump s'est lui ému hier soir du sort des civils sous les bombes à Idlib, le dernier bastion syrien de djihadistes, et a appelé Damas et Moscou à cesser les frappes. Près de 950 personnes y auraient péri en un mois dans des combats. Ce matin, le Kremlin a assuré que l'armée russe ne visait à Idlib que des terroristes. Enfin, les États-Unis, par la voix cette fois-ci de leur chef de la diplomatie Mike Pompeo, se disent prêts à commencer à parler à l'Iran sans condition préalable, même si en réalité Washington n'entend pas pour autant alléger sa campagne de pression maximale sur Téhéran. Donald Trump est arrivé ce matin à Londres pour une visite d'État de 3 jours qui s'annonce d'ores et déjà mouvementée, non content d'avoir une nouvelle fois sauté à pieds joints dans le débat du Brexit en recommandant au Royaume-Uni de quitter l'UE sans accord. Le président américain a encore mis les pieds dans le plat quelques minutes seulement avant l'atterrissage d'Air Force One grâce à un tweet dont lui seul a le secret en qualifiant le maire de la capitale britannique, Sadiq Khan, de loser total. Antoine Gignot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Londres. Alors, l'été dernier, lorsque Donald Trump avait pris le thé avec la reine dans le château de Windsor, il n'avait pas eu droit à tout le faste d'une visite d'État. Cette fois-ci, ce sera bel et bien le cas. En revanche, il semble que le chef de la Maison-Blanche n'a pas pour autant choisi de changer de méthode ni d'avis. Et ce ne sont certainement pas les multiples sujets de tension actuelle entre Washington et Londres, Antoine, qui devraient l'empêcher donc de piétiner tous les usages diplomatiques.
Oui, il est en route, Donald Trump, pour le palais de Buckingham, avec un accueil en grande pompe, réception, coup de canon à Green Park, puis visite de l'abbaye de Westminster. Mais en coulisses, la tension est déjà montée d'un cran à cause de ce message posté sur Twitter par le président des États-Unis quelques minutes avant son atterrissage, effectivement, et dans lequel il traite le maire de Londres de loser total en l'accusant d'être méchant. Il faut dire qu'hier, Sadiq Khan a comparé les méthodes de Donald Trump à celles des fascistes du XXe siècle et que cette visite divise les Britanniques. Jeremy Corbyn, le chef de file des travaillistes, était invité au banquet donné par la reine. Il n'ira pas plus que John Bercow, le président de la Chambre des communes, et pas plus que Meghan Markle, la femme américaine du prince Harry. Tout autour de l'ambassade américaine, sur le pont de Vauxhall, des activistes viennent de déployer de gigantesques banderoles de 20 mètres de long avec l'inscription « Résister à la haine, résister à Trump ». Car derrière le faste de la réception, c'est l'avenir économique du Royaume-Uni qui se joue. Le président des États-Unis va rencontrer pendant ces 3 jours des membres du gouvernement et du patronat pour évoquer un éventuel accord commercial post-Brexit, avec au centre des discussions l'ouverture du marché, notamment au poulet américain nettoyé au chlore, et l'ouverture du système public de santé à des investisseurs privés.
Alors évidemment, cette visite fracassante de Donald Trump intervient au pire moment de faiblesse des autorités britanniques. Et le président américain ne s'est d'ailleurs pas gêné, Antoine, pour s'immiscer dans la vie politique intérieure du Royaume.
Il propose même ouvertement des noms pour prendre la succession de Theresa May à Downing Street. Pour lui, c'est Boris Johnson, l'ancien maire de Londres et ministre des Affaires étrangères, qui est le mieux placé. Mais il parle surtout de Nigel Farage, l'ancien chef du parti d'extrême droite UKIP, qui a fait partie des premiers à aller le voir à New York après son investiture et à Washington, et qui vient d'arriver en tête aux élections européennes avec son tout nouveau parti du Brexit. C'est un ami, dit-il, et il propose de l'inclure dans les négociations avec Bruxelles sur le Brexit. En réaction, les travaillistes dénoncent une ingérence tout à fait inacceptable dans une démocratie, et le chef du parti libéral-démocrate, Vince Cable, commente sur un ton laconique « Nous savons tous que Donald Trump a été invité avant tout pour traiter le problème du Brexit. »
Merci Antoine Gignot en direct de Londres. Et puis j'ajoute que la fin de la visite présidentielle sera centrée sur le 75e anniversaire du débarquement, avec une cérémonie en Angleterre mercredi en présence de la reine, mais aussi du président français Emmanuel Macron. Et puis Donald et Melania Trump feront ensuite un bref passage en Irlande avant de se rendre le 6 juin en Normandie pour les commémorations organisées cette fois-ci par la France. Après deux élections présidentielles successives perdues puis le départ de plusieurs cadres ralliés à Emmanuel Macron, c'est donc le dernier épisode en date dans l'histoire très mouvementée du parti de droite. Hier soir, Laurent Wauquiez a annoncé qu'il quittait la présidence de sa formation, Les Républicains, pour ne pas être, je cite, un obstacle à la reconstruction de la droite. Alors, même si le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes avait tenté de gagner du temps, en proposant notamment la tenue d'états généraux à la rentrée prochaine, voilà une semaine qu'il était sous le feu incessant des critiques au sein de son parti, et avant même d'ailleurs la défaite historique des Républicains aux européennes, Laurent Wauquiez avait déjà fait l'objet en réalité de nombreuses critiques, en particulier sur sa ligne droitière. Autant dire que cette démission n'est pas véritablement une surprise, ou plus exactement, que s'il n'avait pas lui-même choisi de quitter la présidence des Républicains, les Républicains eux-mêmes auraient sans doute quitté Laurent Wauquiez. Stéphane Robert, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors au-delà de savoir qui les Républicains vont-ils trouver pour conduire leur mouvement, en particulier dans la perspective des municipales de mars 2020, ce départ annonce-t-il un changement de ligne politique du parti ?
Oui, vraisemblablement, puisque le pari qu'avait fait Laurent Wauquiez depuis son élection à la tête du parti il y a deux ans était de concurrencer le Rassemblement National sur les thématiques sociétales et identitaires, tout en conservant une ligne libérale sur le plan économique. Ceci afin de continuer à paraître comme l'alternative au pouvoir en place incarné par Emmanuel Macron. Résultat, les Républicains ont été siphonnés à la fois par la République En Marche et par le Rassemblement National, ce qui donne ce score de 8,5% aux européennes. La stratégie de Wauquiez a donc conduit à une dévitalisation de Les Républicains en tant que parti fédérateur à droite. Il faut donc s'attendre à ce que les tenants d'une droite plus modérée reprennent le flambeau. Derrière, entre autres, Valérie Pécresse et Gérard Larcher. Le président du Sénat a d'ailleurs prévu d'organiser une réunion demain avec les présidents de groupes parlementaires et les responsables des grandes associations d'élus locaux afin d'essayer de restructurer cette alliance entre la droite et le centre. Et en attendant, celui qui va assurer l'intérim sera l'un des tenants de cette droite centriste. Il s'agit du maire d'Antibes, Jean-Léon. Alors maintenant, toute la question est de savoir qui voudra prendre la succession de Laurent Wauquiez, qui voudra s'atteler à l'immense tâche qui consistera à essayer de reconstruire une formation politique dont les électeurs semblent parfaitement s'accommoder de ce que propose d'un côté Emmanuel Macron ou de l'autre Marine Le Pen.
Et alors justement, est-ce que la vraie question au fond, Stéphane, ce n'est pas de savoir s'il existe encore un espace politique entre Emmanuel Macron donc d'un côté et Marine Le Pen de l'autre?
Oui, c'est ça. Et ce qui s'est passé hier illustre parfaitement la situation dans laquelle se retrouvent les Républicains. Vous avez d'un côté le ministre des Collectivités Territoriales, ex-Les Républicains, Sébastien Lecornu, qui lance un appel dans le journal du dimanche en direction des maires de droite afin qu'ils fassent alliance avec La République En Marche. Et puis le soir même, hier soir, donc Marion Maréchal-Le Pen a accordé une interview à la chaîne de télévision LCI et s'est faite la porte-voix d'une alliance entre la droite et le Rassemblement National sur la base d'un grand compromis patriotique, a-t-elle dit, pour la défense de la nation. Vous allez avoir donc des élus de droite qui, selon que leur territoire a voté plutôt en faveur de La République En Marche ou plutôt en faveur du Rassemblement National, qui seront tentés de faire alliance avec l'un ou l'autre camp dans la perspective des élections municipales en 2020. D'ailleurs, le mouvement s'est déjà amorcé. Un certain nombre d'élus ont indiqué qu'ils quittaient Les Républicains. Par exemple, le maire de Quimper, Ludovic Jolivet. La question est donc bien de savoir si Les Républicains ont encore un espace politique entre En Marche et le RN, ou si, comme le Parti Socialiste à gauche, ils sont devenus une formation politique de complément incapable d'incarner une alternative au pouvoir en place.
Et toujours pour évoquer donc cette démission hier soir de Laurent Wauquiez, invité de la rédaction aujourd'hui, Aurélien Pradier, député Les Républicains du Lot. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et toujours à mes côtés pour vous interroger, Stéphane Robert. Monsieur Pradier, une première question. Est-ce que le départ de Laurent Wauquiez est une condition suffisante au sauvetage de votre parti? Ou dit autrement, votre parti est-il encore en mesure de se reconstruire après l'échec aux européennes?
La crise que traverse la droite et le centre depuis plusieurs mois, singulièrement depuis dimanche dernier, est une crise beaucoup plus profonde et qui dépasse le seul cas de Laurent Wauquiez. Moi, je veux saluer la décision de Laurent Wauquiez. Voilà des jours entiers qu'il reçoit des tombereaux debout dans une période où l'honneur en politique est une vieille valeur un peu disparue. Je pense qu'on peut saluer le fait qu'il ait pris toutes ses responsabilités de chef et que, essuyant cet échec, il soit parti. C'était pas une évidence et donc je pense que c'est d'abord important de le signaler. La crise profonde de la famille politique à laquelle j'appartiens n'est pas une crise de femmes ou d'hommes qui l'incarnent. La crise, c'est une crise des idées. Et je suis, moi, convaincu que la droite a quelque chose à raconter, quelque chose à apporter et à construire pour notre pays. Et je ne me résous pas une seule seconde à faire le choix entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Mais aujourd'hui, le défi qui nous attend, ne nous y trompons pas, il n'est pas seulement celui de remplacer Laurent Wauquiez par Pierre, Paul ou Jacques. Le défi qui nous attend, il est de refonder nos idées, notre ligne politique. Il faut que la droite se questionne. Il faut qu'elle se mette à douter pendant quelques mois pour ressortir plus forte de cet épisode-là et porter un véritable projet au service des Françaises et des Français.
Une question de Stéphane Robert.
Comment est-ce que vous expliquez les départs qui s'amorcent, notamment Ludovic Jolivet, le maire de Quimper qui s'en va, il y a le maire de Chaville également, le maire de Saint-Cloud, qui quitte les Républicains. Est-ce que vous les comprenez déjà et comment vous les expliquez?
Je ne sais pas s'il faut les comprendre. C'est dans la nature humaine, il y a deux formes d'expression. Il y a le courage et puis il y a la lâcheté. Moi, je me suis engagé en politique il y a une quinzaine d'années. J'ai 33 ans, je suis député de droite dans une terre de gauche. J'ai été élu par des femmes et des hommes de gauche dans le département du Lot. Et je crois que s'ils m'ont fait confiance depuis si longtemps, c'est parce qu'ils savent que j'ai des convictions. Et je trouve absolument détestable le spectacle auquel nous assistons depuis 48 heures, des agents de rabattage de Marine Le Pen d'un côté, d'Emmanuel Macron de l'autre, qui font fi de toute forme de conviction pour chercher l'opportunité. Vous savez, cette grande phrase de Marx qui se demandait si c'était la vie qui dictait la conscience ou si c'était la conscience qui dictait la vie. Eh bien moi, je crois que c'est la conscience qui dicte la vie. Et en l'occurrence, je ne me demande pas aujourd'hui si j'ai un avenir électoral ou pas, ça m'intéresse assez peu en vérité. Ce que je me demande, c'est si je peux me conformer à mes convictions et à mes valeurs politiques. Et j'appelle l'ensemble de mes collègues à en faire de même. Vous savez, voilà deux ans que, pour ma part, je suis à l'Assemblée nationale. Si un seul instant, j'avais cru que le projet de société porté par Emmanuel Macron ou par Marine Le Pen était le bon, alors je les aurais rejoints. Sauf que, depuis deux ans, je constate que le projet politique porté par Emmanuel Macron est un projet de société fataliste, injuste, qui ne correspond pas aux valeurs profondes qui sont les miennes. Et de la même manière, le projet de société chaotique porté par Marine Le Pen n'y correspond pas. Voilà pourquoi je veux travailler pour ouvrir une autre voie. C'est sûrement plus difficile de reconstruire que de se barrer chez les voisins, mais c'est l'idée que je me fais de la politique, et je crois que c'est aussi l'idée que les Français se font de la politique.
Le projet de la droite, pour le moment, Monsieur Pradier, c'est 8,5%, ce que ça donne.
Nous sommes bien d'accord, mais je ne conteste pas du tout l'échec que nous avons échoué. Et si, depuis plusieurs jours, avec de nombreux jeunes députés, les Républicains, nous tirons la sonnette d'alarme en disant « il faut à présent se remettre au travail pour nos idées », c'est bien parce que nous mesurons qu'aujourd'hui nous ne pesons rien. Les Français ne nous regardent plus. Quand les Françaises et les Français choisissent encore le bulletin de vote, les Républicains, ils sont incapables de nous dire à quoi cela correspond parce que nous ne parlons plus aux Françaises et aux Français depuis plusieurs mois.
Et qu'est-ce que vous avez apporté, vous, jeunes élus, les Républicains, de plus, de nouveau?
Écoutez, depuis deux ans, je crois qu'à l'Assemblée nationale, nous n'avons pas démérité. Je vais vous donner un exemple très précis. Voilà deux ans, je travaille sur une question qui passe en dessous des radars, qui est celui de la question du handicap. Voilà deux ans que chaque semaine, je travaille sur le handicap. J'ai déposé une proposition de loi à l'Assemblée nationale qui a été balayée par les députés de La République En Marche de manière honteuse il y a plusieurs mois. Et sur cette question essentielle pour des millions de nos concitoyens qui est le handicap, la droite a quelque chose à dire de différent de la gauche et de différent de la vision macroniste. Ce que je pense, c'est qu'il faut que la droite se repositionne sur des sujets sociaux qui ont d'ailleurs toujours fait ses racines et ses valeurs, depuis le général de Gaulle en passant par Philippe Séguin ou Jacques Chirac. La droite a quelque chose à faire pour transformer notre société et à s'emparer d'un sujet essentiel qui n'est ni le sujet de l'économie ni le sujet de l'immigration, qui est celui de la justice sociale. Comment nos concitoyens retrouvent une place dans la société ? Eh bien, je pense que sur ces sujets, il y a, oui, encore une vision de droite et une vision de gauche. Là où Emmanuel Macron n'a pas de vision, ou du moins une vision, je le redis, injuste et fataliste de la société, et là où Marine Le Pen, évidemment, n'a aucune espèce de vision, si ce n'est celle de vouloir nous opposer les uns et les autres.
Merci Aurélien Pradier, député, je le rappelle, les Républicains du Lot, d'avoir accepté notre invitation en direct et en duplex de chez nos confrères de France Bleu Occitanie. Merci également à Stéphane Robert. Le projet de loi mobilité sera discuté à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Déjà passé au Sénat en première lecture, ce texte est passé d'une cinquantaine d'articles à plus de 140 et a généré le dépôt de près de 3500 amendements. Un record, autant dire que les joutes s'annoncent nombreuses au sein de l'hémicycle et tout particulièrement s'agissant de l'assouplissement des 80 km à l'heure. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
Alors depuis près de 6 mois, les manifestations des Gilets jaunes ont confirmé le sentiment d'injustice de certains Français de vivre dans un pays qui avance à deux vitesses. Or ce texte Hakim est censé justement répondre à leurs attentes.
Oui, clairement, donner du pouvoir d'achat aux Français, c'est bien en partie l'objectif de ce texte. Alors cela commence par exemple par le forfait mobilité qui pourra partir jusqu'à 400 euros à condition d'utiliser des moyens de transport alternatifs comme par exemple le covoiturage ou son vélo. Mais attention, ce forfait de 400 euros ne sera pas obligatoire. Ce sera au patron d'entreprise de décider de plus de 50 salariés s'il le verse ou pas. Ce qui agace clairement la ministre des Transports, Elisabeth Borne, qui n'exclut pas de mettre en place une ordonnance afin de le rendre obligatoire. Autre mesure sur le pouvoir d'achat, elle concerne cette fois les personnes qui vivent en zone reculer, avec la possibilité de leur donner un forfait de 200 euros par an, forfait pour, notamment pour le carburant. Autre mesure, elle concerne cette fois le permis de conduire, avec la possibilité de s'inscrire directement sur les épreuves pratiques via des plateformes, ce que dénoncent les directeurs d'auto-école, qui dénoncent là une ubérisation de leur travail. Alors, mesure plus politique, cette fois, vous l'avez dit, ce sont les 80 km/h. Les présidents de région pourront monter jusqu'à 90 km/h la vitesse des véhicules sur les routes secondaires. Il faut bien le préciser. Enfin, en ce qui concerne les infrastructures, les projets de lignes à grande vitesse sont reportés avec une priorité donnée cette fois aux trains du quotidien, les RER, mais aussi les TER en région. Et pour financer en partie ces infrastructures, le gouvernement entend utiliser la fameuse taxe Chirac sur les billets d'avion, ce qui pourrait rapporter environ 30 millions d'euros. Alors, sur les marchés qui sont très importants, c'est pas beaucoup, mais au moins, c'est une mesure symbolique. Alors, toutes ces mesures, elles coûteront au total 13,4 milliards d'euros, dont les deux tiers seront consacrés aux projets d'infrastructures routiers et ferroviaires.
Merci, Hakim Kasmi. Une semaine après que la Commission européenne a officiellement demandé à l'Italie de s'expliquer sur la détérioration de ses comptes publics, le président du Conseil italien a décidé de mettre sa démission dans la balance aujourd'hui. Giuseppe Conte espère encore obtenir de la Ligue et du mouvement 5 étoiles, les deux parties de la coalition, un mandat de négociation avec l'UE et ainsi empêcher l'ouverture d'une procédure disciplinaire contre Rome. Comme un effet domino en Allemagne après le départ inattendu hier d'Andrea Nahles de la tête d'un SPD déboussolé, la question se pose à présent du maintien ni plus ni moins de la grande coalition au pouvoir, laquelle, on le sait, survit dans la douleur depuis plus d'un an. Plusieurs réunions de crise sont d'ailleurs prévues aujourd'hui au sein des sociaux-démocrates, mais aussi des chrétiens démocrates d'Angela Merkel. Il faut dire que du côté de la CDU aussi, la dirigeante du parti et dauphine présumée de la chancelière Annegret Kramp-Karrenbauer se retrouve ouvertement critiquée depuis les européennes. Ludovic Piétenu, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à toutes et tous.
Vous êtes en direct de Berlin. Alors dans le cas où la GroKo, la grande coalition, viendrait à exploser, l'organisation de législatives anticipées serait une première en Allemagne dans de telles conditions. Seule certitude pour l'instant, Ludovic, jamais l'avenir du gouvernement d'Angela Merkel n'aura été aussi incertain.
En cas d'élection, les Verts se tiennent prêts en embuscade fort de leur très bon score. Le parti de gauche Die Linke et l'extrême droite AfD exigent des élections législatives anticipées. Ces deux partis ne voient pas d'autre alternative à la crise gouvernementale, surtout depuis l'annonce hier du départ précipité de la chef du SPD, officiellement confirmé il y a quelques minutes devant les cadres du parti. Mais vous l'avez dit Thomas, d'abord, au vu des résultats des européennes, un scrutin anticipé serait très dangereux pour les sociaux-démocrates comme pour les chrétiens-démocrates. Il n'y n'ont donc pas intérêt. Il y a de plus 3 élections régionales après l'été dans des anciens Länder de l'Est du pays qui s'annoncent très compliquées pour ces 2 grands partis traditionnels allemands. Ajouter de la crise à la crise maintenant ne ferait qu'augmenter la probabilité d'un échec lors de ces prochains scrutins. Nous voulons continuer le travail du gouvernement, a déclaré hier soir sobrement la chancelière Angela Merkel. Une façon de dire que tout doit rester comme tel. Il y a donc fort à parier que rien ne se passe, pas tout de suite, et que chacune des forces de cette grande coalition recherche la stabilité. La Stabilität a un terme très usité dans la vie politique allemande, car il est à même de rassurer l'opinion publique. Il paraît peu probable que le SPD décide de quoi que ce soit dans l'urgence. À sa tête, cela est en train d'être acté. 3 personnes vont assurer l'intérim. Elle devrait surtout s'occuper de convoquer un congrès prévu initialement en décembre. Il devrait être avancé dans 2 ou 3 mois à la rentrée en septembre.
Merci Ludovic Piétenu en direct de Berlin. En Grèce, confirmant sa victoire écrasante aux dernières élections européennes, l'opposition de droite a encore remporté hier la majorité des régions du pays à l'occasion d'élections locales. De quoi donner à la grande formation des conservateurs un très net avantage 5 semaines avant les législatives anticipées du 7 juillet. On termine avec un mot rapide de météo. Le temps de cet après-midi sera essentiellement marqué par le retour des nuages. Les températures en baisse, elles varieront entre 17 et 32 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue à 18h. Vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.